Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer sur ces notions de classification, régression, à partir d'une approche au départ linéaire, qu'on rendra non linéaire avec ces techniques à noyaux. Et je vais ici surtout me concentrer sur le problème de classification. Alors vous verrez qu'il y a toute une série de très jolies idées qui ont été développées. Ça correspond essentiellement à des recherches qui ont été menées entre les années 90 et 2000 et quelques, 2005. C'est des algorithmes qui fonctionnent bien, pas forcément ceux que vous allez utiliser toujours en pratique, sauf certains, mais surtout il y a des concepts assez profonds qui apparaissent derrière, et essentiellement comment on peut prendre un problème et le linéariser, et du coup le résoudre avec des algorithmes relativement simples, efficaces et convexes. Et c'est un cadre mathématique dans lequel on arrive à contrôler à peu près tout, y compris le risque des estimateurs. Alors, j'avais commencé là-dessus, donc là on va considérer le problème de classification, et on commence par on se place dans un cadre où il y a deux classes, donc Y peut être égal à 2 plus ou moins 1, donc voyez ça comme deux classes de points. Là je représente les points XI qui sont dans RD, qui sont soit dans la classe 1, soit dans la classe moins 1. Et l'idée, ça va être d'abord d'estimer des classificateurs très simples, linéaires, qui vont séparer les deux classes avec des hyperplans. Donc avec un hyperplan, ça veut dire que, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter sur un vecteur W. Et puis, si on est à gauche ou à droite de l'hyperplan, on va pouvoir le reconnaître à partir du produit scalaire entre le point X et W plus B, donc ça va être l'équation de l'hyperplan. Et donc on va construire un classificateur qui va vous associer une estimation de la classe tout simplement en regardant le signe de cette quantité-là. Et donc tout le problème, c'est de comprendre comment estimer au mieux à la fois l'hyperplan, c'est-à-dire le vecteur W et le B. Et a priori, quand vous avez un problème comme ça, soit vous êtes dans un cas relativement simple dans lequel le problème est effectivement séparable. Alors si le problème est séparable, ça veut dire par un hyperplan, ça veut dire qu'effectivement il en existe un qui va parfaitement séparer les données d'entraînement. Parfaitement séparer les données d'entraînement, c'est-à-dire pour tout YI, et donc pour XI et YI, ça veut dire qu'on peut trouver un hyperplan tel que ceci plus B soit du même signe que le signe de YI. Et une des manières de l'exprimer, c'est en disant que le produit entre YI et cette quantité soit toujours positif. D'accord ? Donc, ça, c'est une façon d'exprimer le fait que, effectivement, il existe un hyperplan qui va bien séparer les données, donc qui va donner les réponses exactes pour chacun des exemples d'entraînement. Alors ensuite, le problème, c'est que, j'avais déjà mentionné à la fin du dernier cours, c'est qu'éventuellement, cet hyperplan, il n'est pas unique. Alors si je me place, parce que c'est plus facile pour dessiner en une dimension, un hyperplan de dimension 1, donc mes points sont dans un plan, c'est-à-dire que ça va consister à trouver la droite, une droite qui va séparer ces points. Et puis, comme je l'ai mentionné, eh bien, évidemment, des droites comme ça, je peux en trouver pas mal, potentiellement. Et toutes ces droites, a priori, celle-là, ça ne marche pas, parce que j'ai mal classé ce point, mais disons, celle-là, ça a marché. A priori, toutes ces droites sont des candidats potentiels comme classificateur. Et donc toute la question, c'est de voir en quel sens on peut définir un classificateur qui est plus robuste que les autres, qui va être, disons, optimale en un certain sens. Et c'est là qu'il y a eu cette très jolie idée introduite par Vapnik, qui a consisté à observer qu'a priori, un bon hyperplan, ça va être un hyperplan qui va être robuste relativement à des petites perturbations des données d'entraînement. Et donc, quand vous avez une petite perturbation des données d'entraînement, c'est encore cette idée de stabilité qu'on a vue pour ne pas overfitter. Donc, cette idée de stabilité, on va la retrouver un peu partout dans ce domaine. Eh bien, ce qu'on veut, c'est que l'hyperplan classifie toujours bien. Et pour que ce soit vrai, eh bien, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que l'hyperplan soit le plus loin possible de tous les points d'une classe et de l'autre classe. Donc, ce qu'on va essayer de maximiser, c'est ce qu'on appelle la marge. Et la marge, c'est la distance minimum entre un point de la classe 1 et l'hyperplan et un point de l'autre classe et l'hyperplan. Donc on va ici, on va définir un espèce de tube comme ceci de sécurité à l'intérieur duquel il n'y a aucun point d'une classe et de l'autre et le largeur totale de ce tube, ça va être donc deux fois la marge. Et maintenant, on va essayer de relier cette marge aux coordonnées de l'hyperplan. Alors, pour faire ça, cette équation ici, c'est l'équation Wx, W produit scalaire, x plus b égale 0. Ça, c'est l'équation de l'hyperplan. Ben, pour que l'hyperplan maximise la marge, ce que je veux, c'est qu'il soit exactement au milieu entre le point le plus proche à gauche et le point le plus proche à droite. D'accord ? Alors, le point le plus proche à gauche, donc tous ces points qui vont être ici, ça va être une équation de la forme W produit scalaire avec X plus B égale à une certaine constante. D'accord ? C'est un hyperplan qui est parallèle à celui-là. Maintenant, cette constante, si je divise W et B par C, je peux toujours imposer qu'elle soit égale à 1. D'accord ? Et le fait que l'hyperplan soit au milieu du point le plus proche à gauche et du plus proche à droite, ça veut dire que pour les points qui sont à droite, eh bien, ils vont être définis par l'équation Wx plus B égale moins 1. D'accord ? Donc j'ai renormalisé le vecteur W et B par une constante de manière à ce que les plus proches à gauche correspondent à l'hyperplan Wx plus B égale 1 et les plus proches à droite soit Wx plus B égale moins 1. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est relier cette quantité qu'on appelle la marge à ces paramètres W et B. Bon, comment on calcule la marge ? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter sur le vecteur W. Alors, si je prends le point, disons, X1 qui est ici et X2 qui est ici, qu'est-ce que je sais ? Je sais que WX1 plus B est égal à 1 et puis WX2 plus B est égal à... là, je l'ai mis de ce côté-là, donc... alors, je vais l'appeler X1 ici, ça c'est positif, et X2 ici. WX2 est égal à moins 1. Comment on peut calculer cette distance ? Eh bien, la distance ici entre les deux points, ça va être la projection du vecteur entre x1 et x2, ce vecteur-là, que je projette sur cette direction. Donc si je le projette, j'obtiens cette quantité-là. Et si ce vecteur est unitaire, eh bien, la projection va être exactement égale à la marge. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que si je calcule x2 moins x1, que je le projette sur le vecteur W renormalisé, de manière à ce qu'il ait une norme 1, eh bien ça, c'est cette quantité-là, c'est exactement cette distance ici. Et donc cette quantité-là, ça va être exactement deux fois la marge. D'accord ?
Et x2, alors, le produit scalaire entre x2 moins x1, on va le calculer ici, produit scalaire w entre x2 moins x1, alors j'aurais dû dire, excusez-moi, c'est pareil ici, c'est j'ai mis x1 qui est en positif et x2 qui est en négatif, donc à ce moment-là, ici, il faut que je fasse le vecteur x1 moins x2, qui va être deux fois la marge. Donc, W entre x1 moins x2, je soustrais ces deux équations, ça va être égal à 2, et donc, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que la marge, elle est égale à, vous mettez le 2 de l'autre côté, ça vous fait 1 sur 2, norme de W, fois cette quantité-là, oui, 1 sur norme de W. La marge est égale à, ça c'est 2 fois la marge de, oui, c'est 1 sur norme de W, il me semblait que j'avais un facteur 2 là. Si j'additionne ces deux, soustrais ces deux équations, je vais bien avoir 2, et le produit scalaire entre x2, c'est ça. Donc la marge, ça va être 1 sur la norme de W. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Ce qu'on veut, c'est minimiser la marge, maximiser la marge, et maximiser la marge, ça, c'est équivalent à minimiser la norme de W. D'accord ? Donc maintenant, on se retrouve devant un problème qui est tout simplement un problème avec un certain nombre de contraintes. Les contraintes, elles expriment le fait que l'hyperplan est bien séparateur, c'est-à-dire ne s'est pas trompé sur la classification de chacun des points, ce qu'on impose avec ces contraintes inégalités. Et puis, on veut par ailleurs minimiser la norme de W, qui revient à maximiser la marge. OK ? Donc ça, c'est le premier problème, et ça, évidemment, on va pouvoir l'exprimer avec un lagrangien. On a un problème, en fait, d'optimisation, de minimisation d'un certain nombre de paramètres avec une formulation qui est convexe, avec des contraintes inégalités qui, elles-mêmes, vont être convexes, donc ça, ça va pouvoir s'optimiser en définissant un lagrangien qui va définir, dépendre des paramètres qu'il faut optimiser, c'est W et B. Et puis, on va introduire les multiplicateurs de Lagrange qui vont introduire les contraintes d'inégalité. Donc, les multiplicateurs de Lagrange, ici, je vais les appeler un vecteur alpha. Et ça va consister à minimiser, donc là, typiquement, on renormalise 1 sur norme de W carré, et puis la somme des multiplicateurs de Lagrange alpha i fois les contraintes. Alors, excusez-moi, ça, c'est pas plus grand que... Ouh là là, ça, c'est plus grand que 0, mais excusez-moi, j'ai fait une grosse erreur. Là, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai normalisé les hyperplans pour que le point le plus proche soit égal ici à 1 et ici à moins 1. Donc ça, c'est vrai que ça doit être supérieur ou égal à 0, mais en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça doit être plus grand que 1. Pourquoi ? Parce que, par définition, le W et B que j'ai pris est égal à 1 pour le point le plus proche. Donc, tous les points à gauche, je dois avoir une inégalité supérieure ou égale à 1. Et tous les points à droite, je dois avoir une inégalité qui va être inférieure ou égale à moins 1. Donc, si jamais je multiplie par le signe, ce que je vais avoir comme contrainte, c'est que pour tout xi plus b, ça, ça va être plus grand que 1. Et c'est parce que j'ai utilisé cette normalisation qu'ensuite la marge est donnée par la norme de W. Donc ici, la contrainte, c'est plus grand que 1. Donc l'inégalité, la contrainte, on va l'écrire sous la forme de 1 moins ceci qui est inférieur ou égal à 0. Pour le mettre sous la forme dont on a l'habitude, c'est-à-dire une contrainte inférieure ou égale à 0. Et là, on se retombe dans le cadre classique que j'avais écrit sous la forme minimisation avec une contrainte CI de X convexe plus petite que 0. D'accord ? Donc ici, vous avez la contrainte. Donc vous allez avoir la somme des alpha I fois les contraintes, c'est-à-dire 1 moins YI fois le produit scalaire de XI avec W plus B. D'accord ? Ça, c'est mon Lagrangien. Alors, ce premier cadre, il va fonctionner au sens où je vais trouver le meilleur hyperplan séparateur à une seule condition, c'est que cet hyperplan séparateur existe. Maintenant, vous allez avoir de nombreux cas où, en fait, il n'existe pas de classificateur linéaire qui va pouvoir parfaitement classifier les exemples d'entraînement. C'est-à-dire que les exemples d'entraînement ont une distribution un peu trop compliquée, et par exemple, vous avez des exemples qui se retrouvent ici. D'accord ? Alors, vous pouvez vérifier, quel que soit l'hyperplan, vous n'allez pas pouvoir trouver un hyperplan qui va parfaitement séparer tous les points. Qu'à cela tienne, à ce moment-là, ce que vous allez dire, c'est que le meilleur hyperplan, c'est l'hyperplan qui va introduire, disons, l'erreur minimum. Et comment est-ce que Vapnik propose de définir cette erreur minimum ? C'est en regardant de combien les points qui sont mal placés, il faut les bouger pour se retrouver bien classé. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, je vais écrire. Donc, pour être bien classé, il faut aller jusque-là. Maintenant, on a une contrainte de marge, et il y a une autre contrainte qu'on peut introduire, c'est de combien il faut que je bouge pour que je me retrouve à l'intérieur de la marge. D'accord ? Parce que j'ai défini une marge ici. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que mon inégalité YI, XI, produit scalaire avec W, qui est imposée si jamais j'ai un hyperplan séparateur qui existe, eh bien je vais un peu la relaxer en permettant aux points, éventuellement, si on les décale du quantité, alors je vais la montrer en couleur pour que ce soit plus clair, XI, de se retrouver dans la bonne zone. Donc, ce point ici, pour qu'il se retrouve dans la bonne zone, il faut qu'il aille jusqu'ici, pardon. Ça, c'est la valeur xi. Ce point ici, il est mal classé, il est parmi les ronds. Il faut que je le ramène parmi les croix jusqu'à la marge. Ça, ça va être xi prime pour lui. Pareil, celui-là, il va falloir que je le ramène. Et tous les autres, je peux les laisser tels quels. Donc ça, ce sont les coûts associés à l'erreur pour chacun des points. Donc qu'est-ce que je vais imposer ? Donc ça va s'appeler, en anglais, c'est un soft SVM, support vector machine, alors que celui-là, ça s'appelle du hard SVM. Et évidemment, le xi, il est positif. D'accord ? Donc du coup, je me retrouve avec un nouveau problème d'optimisation, mais il y a des nouvelles variables en plus qui sont les xi, et ce que je veux, c'est minimiser la norme de W carré. Ça, c'est le critère de marge. Sous contrainte qu'il y ait ceci. Maintenant, ça ne va pas suffire parce que, évidemment, ce que je veux, c'est pénaliser le coût xi. Donc, à ce critère de marge, ce qu'on va rajouter, c'est le coût associé à chacun des xi. Et ce coût, Vapnik propose de le mettre comme la somme des xi sur tous les points. Alors, si le point est bien classé, naturellement, par le plan, xi va être égal à 0, donc il n'y a pas de coût, et on retrouve le critère précédent. Mais si effectivement il faut le ramener, et bien, ça va introduire un coût qui va se retrouver ici. OK ? Donc ça, c'est le cadre. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est relier ça à ce qu'on a fait la dernière fois, qui a consisté à essayer d'observer que quand on fait une classification, même une ou une régression linéaire, eh bien, il faut quand même s'assurer que la classe des WDB n'est pas trop grande, de façon à ce que la classe des hypothèses, ou ici des classificateurs, ne soit pas trop nombreuse pour qu'il n'y ait pas de grosses erreurs de fluctuation sur les estimateurs. Et ce qu'on a vu, c'est que pour faire ça, il y avait une technique qui consistait à régulariser l'estimateur. Alors, comment est-ce que ça se relie à ceci ? Là, d'une certaine manière, on voit bien qu'on est en train de mettre une pénalisation et on a une optimisation. Question, comment est-ce que ça se relie à un phénomène de régularisation ? Si jamais je fixe W et B, à quoi va être égal le xi ? Si jamais cette quantité est plus grande que 1, le xi va être égal à 0. Si cette quantité n'est pas plus grande que 1, le xi va être égal exactement à la différence. Donc, qu'est-ce que je peux le réécrire autrement ? Ce qu'on voit, c'est que xi, évidemment, ça doit être plus grand que 1 moins yi, produit scalaire entre xi, w plus B, et en même temps que xi doit être égal à 0. Donc la valeur optimale pour minimiser la pénalisation, c'est-à-dire que le xi soit le plus petit possible, ça va être tout simplement xi qui va être égal au maximum entre cette quantité et 0. Ça, ça me garantit bien que xi est toujours plus grande que cette quantité, et ça me garantit bien que si, par contre, cette quantité est négative, vous allez prendre pour xi 0. D'accord ? Donc ça, à WB fixé, ça vous donne la formulation de xi. Donc si je réécris cette quantité ici, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est la même chose que 1 sur 2 normes de W carré, plus c fois la somme sur i, de ces quantités-là, c'est-à-dire le maximum entre 1 moins yi, produit scalaire avec W, plus B, et 0. Alors, comment on peut interpréter ça ? Ça, en fait, on peut interpréter ça comme un risque d'erreur. Je vais l'appeler R, donc qui va dépendre de x, de y et des paramètres WB. Et ça, ce risque, c'est quoi ? Ceci, c'est l'estimation que je vais appeler ici y bar. C'est là, d'une certaine manière, vous pouvez voir ça comme la régression linéaire de y à partir de x, par projection sur l'hyperplan plus W. Donc, qu'est-ce que c'est que R ? Oui, je vais écrire comme ça. C'est max de 1 moins, d'une manière générale, y bar. D'accord ? Là, j'ai le xi, yi estimé, la régression xi produit scalaire plus b, donc là, ce que je suis en train de décrire d'une certaine manière. Y bar, c'est la régression de y avec w et b. C'est une régression linéaire. Et ceci, ça s'écrit tout simplement pour n'importe x, y, comme cette quantité-là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Imaginez, par exemple, que mon y soit égal à 1. Je suis dans la classe 1. D'accord ? Le y bar, c'est la régression de la valeur de y à partir du vecteur W de régression et la constante B. Si le y bar est l'estimateur, normalement, le y, ça va être le signe de y bar. Si y bar est négatif, L'estimateur, ça va être moins 1 alors que y est égal à 1. Et donc, si je porte ici le risque, normalement, je devrais dire, le risque, j'ai fait une erreur, il va être égal à 1. Il y a un coût. Et si l'erreur va être égale à 1, si jamais, par contre, cette quantité est positive, le signe est positif, je n'ai pas commis d'erreur, et donc l'erreur, c'est 0. D'accord ? Ça, c'est la fonction de risque qu'on a vue, 0,1, qui vous dit en classification, soit vous faites une erreur, coût égal à 1, soit vous ne faites pas d'erreur, coût est égal à 0. Et ce qu'on a vu, c'est que le problème de cette fonction de risque, elle est non convexe, et donc au moment de l'optimisation d'une quantité comme ça, ça va être difficile. Cette fonction ici, c'est une fonction qui est linéaire, max de ceci est de 0, excusez-moi. Donc, si y est égal à 1, ça veut dire que lorsque c'est le max de 1 moins y bar, donc si jamais y est plus grand que 1, l'erreur ici va être égale à 0. Donc là, je vais porter le risque R de y bar. Ça, je peux le voir comme aussi, si je le mets comme ceci, je peux le voir comme y, une fonction de y et de y bar. Eh bien, c'est la courbe qui est linéaire comme ceci. Ça, encore une fois, c'est max de 1 moins y bar et de 0. Elle est linéaire pour la partie de y bar qui est plus petit que 1, et dès que y bar est plus grand que 1, le max, il vaut 0, et donc ça vaut 0. Et qu'est-ce que vous voyez ici? C'est qu'on tombe exactement sur une convexification du risque non convexe 0,1, et ça, c'est en anglais, on appelle ça hinge loss. Et donc, en fait, l'optimisation de la marge, qui est une quantité tout à fait intuitive, qui consiste tout simplement à ajuster l'hyperplan pour être le plus loin possible des points de chacune des classes, modulo éventuellement un coût de déplacement, ça revient exactement à convexifier ce coût non convexe. Et donc, comme maintenant on a une fonction de coût qui est convexe, là, on tombe exactement sur... Excusez-moi, j'ai mis... c'est 1/2 de norme de W carré. Hein. C'est pas, il n'est pas au dénominateur. On tombe exactement sur un problème où on minimise le risque sous contrainte de la norme de W carré. C'est-à-dire que le problème d'un soft SVM, cette quantité-là, c'est le risque total. Le risque total pour un W estimé sur les exemples XI, YI, eh bien, c'est la somme, et je peux mettre un 1 sur N, si j'ai N exemples, des risques pour chacun des XI, YI, W et de B. Et si je l'écris comme ça, eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est de minimiser le risque total de mon estimation, alors ça c'est pour tous les XI et YI, je peux enlever ces variables, plus norme de W, alors je ne vais pas mettre le 1 sur N, comme ça je n'aurai pas à me le trimballer après, plus 1/2 de norme de W carré. D'accord ? Donc ce que vous obtenez, c'est en fait une régularisation du risque. On retombe exactement dans la formulation qu'on avait la fois précédente, où on a défini non pas un risque qui est un risque 0,1, mais un risque qui est convexe, régularisé par la norme de W carré. Ça, on a vu, c'est très important parce que ça permet de restreindre l'ensemble des hypothèses à des W qui sont compacts et donc pas avoir, si jamais on quantifie les WDB, trop de possibilités, et on tombe exactement sur le SVM de Wapnick. Alors, À partir de là, la question qui se pose maintenant qu'on a convexifié le problème, c'est d'avoir un algorithme efficace pour le résoudre. D'accord ? Donc là, maintenant, on est dans un cadre qui va bien fonctionner. On sait que, d'un point de vue statistique, ça a bien fonctionné parce qu'on a régularisé l'ensemble des hypothèses et donc on devrait avoir une erreur de fluctuation qui va être bien contrôlée. Et donc, maintenant, le problème, c'est simplement calculer la solution. Alors, calculer la solution, ben, on va pouvoir, par exemple, le faire avec une approche là-haut lagrangienne. Alors, je vais me replacer... je peux effacer ça. Je vais maintenant me replacer dans le cas un petit peu plus simple d'un SVM qui est strict, un hard SVM. Pour l'instant, pour l'optimisation, je ne vais pas inclure la partie d'ajustement obtenu avec les erreurs XI. Alors, imaginons qu'il existe effectivement un hyperplan séparateur. À ce moment-là, il faut trouver le W et le B qui va être une minimisateur, ce qui revient à trouver un point sel du Lagrangien. Alors, le point sel du Lagrangien, donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi la dernière fois. Ça consiste donc, j'ai défini mon allant Lagrangien comme ceci, à partir des variables WB. Et ce que je veux, c'est minimiser le Lagrangien par rapport aux variables primales, c'est-à-dire WB. Donc ici, j'ai alpha I, et puis j'ai le 1 moins YI produit scalaire entre le XIW et le plus B. Et donc, un point sel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être minimum relativement aux variables primales W et B, et c'est quelque chose qui doit être maximum relativement aux variables duales qui sont, quand on, qui sont les multiplicateurs de Lagrange. Et on veut trouver le point qui va être donc minimum par rapport à ceci et maximum par rapport à celui-là. Ce qu'on a vu, c'est que quand on est dans un cas convexe, alors tout se passe bien, c'est-à-dire que ces conditions du Lagrangien, qui sont normalement simplement des conditions suffisantes, deviennent aussi des conditions nécessaires, et le problème se résout tout simplement en écrivant que les dérivées partielles par rapport à variables primales sont nulles, et puis en exprimant les contraintes sur les variables du Lagrangien. Alors je vais l'écrire. D'abord, il faut écrire que la dérivée partielle par rapport, prenons la première variable B, ici va être égale à 0. Donc la dérivée partielle par rapport à B, B, il a, c'est un scalaire, il apparaît ici, il va être multiplié par YI et alpha I, donc ça, ça va être moins somme sur I de alpha I, YI, et comme je suis un minimum, donc ça, ça vaut 0. Ensuite, il faut faire le gradient par rapport au vecteur W, donc je vous rappelle, hein, W, il appartient à un vecteur dans RD. Donc si je vais l'écrire comme ceci, le gradient par rapport à W, donc la norme au carré, ça, c'est produit scalaire W à W, avec, ça va me redonner la norme, ça va exactement me donner, pardon, le gradient, ça va exactement me W. Et puis ensuite, j'ai une somme sur I, j'ai alpha I fois moins YI, produit scalaire entre XI et W, et ça, le gradient de ceci par rapport à W, ça va exactement donner le vecteur XI. Donc là, je vais avoir ici un moins somme des alpha I, YI, XI. Et ça, ça vaut 0. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un résultat qu'on avait déjà démontré, c'est que dans ce genre de situation, c'est-à-dire d'optimisation linéaire, ceci, le W, eh bien, c'est une combinaison linéaire des XI. Seulement ici, il y a une chose qui est aussi importante, c'est que les alpha, ils sont toujours positifs. On en sait un petit peu plus. On sait qu'en fait, c'est une combinaison linéaire avec des facteurs dont le signe correspond au signe de YI, parce que le alpha I ici est toujours positif. Enfin, Autre contrainte, il faut que les dérivés par rapport au B soient toujours négatives de manière à ce que les contraintes ici soient obtenues. Et donc ça revient à dire donc que les contraintes ici alpha i, donc cette quantité-là doit toujours être négative, mais ce qu'on a vu, c'est que la contrainte est un peu plus forte, c'est-à-dire que lorsque ceci alors, j'ai d'abord l'écrire. On doit avoir 1 moins yi produit scalaire de xi w plus, excusez-moi. Je vais mettre là. Je vais mettre directement. Fois. Ça, le produit doit être égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit si cette quantité-là est effectivement négative, c'est-à-dire non nulle, alors le alpha i égale 0, et si cette quantité-là est égale à 0, alors c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir le alpha i qui va être positif. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que si jamais je suis un vecteur du support, alors je vais refaire le dessin. J'ai mon hyperplan séparateur et puis j'ai les différents points qui sont comme ceci. Et puis j'ai cette espèce de tube qui correspond aux protections données par la marge. Et puis j'ai les points comme ceci. On a vu que ce tube, il est défini pour chacune des extrémités par les hyperplans. Ceci égale à moins 1 et ceci, produit scalaire plus B, est égal à 1. Si on est sur des xi tels que cette quantité-là ici, donc du coup, ça correspond aux points qui sont soit ici, c'est-à-dire c'est au point tel que vxi plus B est égal à 1. Alors à ce moment-là, c'est le cas où les multiplicateurs de Lagrange vont être non nuls, typiquement. Si on est dans un cas où on est au-delà de la marge, c'est-à-dire le produit scalaire yi fois ceci, pardon, le produit entre yi et cette quantité-là va être strictement négatif, à ce moment-là, le multiplicateur de Lagrange, alpha i, égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de contraintes effectives que vous avez dépend simplement du nombre de points qui sont sur ces deux hyperplans les plus proches possibles de l'hyperplan central. Et ça, c'est quelque chose en fait d'assez intuitif, parce que quand vous allez ajuster cet hyperplan, vous en foutez totalement des points qui sont là. Ils ne jouent absolument pas sur l'optimisation de l'hyperplan. Les points qui jouent sur l'optimisation de l'hyperplan, c'est ceux qui sont vraiment les plus proches. C'est ceux par rapport auxquels vous allez vous ajuster. Et ceux par rapport auxquels vous allez vous ajuster, eh bien, c'est ceux qui vont effectivement générer un multiplicateur de Lagrange non nul. Et donc on voit qu'en fait le nombre de variables libres dans ce problème, ce n'est pas n, c'est-à-dire le nombre total de points, quand vous allez faire l'optimisation, mais c'est le nombre de points qui vont se retrouver près de l'hyperplan. Et c'est ça qui permet d'avoir en fait des algorithmes aussi d'optimisation beaucoup plus rapides, parce que ce qu'on essaye de voir, c'est assez rapidement les multiplicateurs de Lagrange qui sont non nuls, qui correspondent à ces points qui vont vraiment déterminer l'hyperplan, et c'est là-dessus l'ajustement de ces multiplicateurs qui vont spécifier le W. Autrement dit, une autre manière de le voir ici, si vous regardez le W ici, quand alpha i est égal à 0, évidemment le W ne dépend pas de alpha i, donc autrement dit, le W n'est qu'une combinaison linéaire des points qui sont près de l'hyperplan, et ces points, ça s'appelle en anglais les vecteurs de support, en quoi, support vectors en anglais, donc c'est ce qu'on appelle en français les vecteurs de support. Donc ça, c'est l'autre concept qui apparaît derrière tout ça, c'est qu'à l'intérieur de votre masse d'exemples d'entraînement, tous ne vont pas avoir le même rôle et la même importance. Les seuls qui vont être vraiment importants, c'est ceux qui vont vous permettre de déterminer la position de la frontière, ce qui va à nouveau s'exprimer à travers le fait qu'ils génèrent des multiplicateurs de Lagrange qui sont non nuls, et ça s'exprime, donc dans ce cas linéaire, par le fait que la combinaison linéaire du vecteur W que vous cherchez ne dépend que de ces points. D'accord ? Donc, ça, c'est un des éléments qui est vraiment important. Et voilà, là, j'ai toutes mes équations. Alors, maintenant, comment on résout ça ? Eh bien, on résout le problème en se plaçant dans l'espace dual. Donc, d'une manière générale, les paramètres alpha, c'est... je vais me placer ici. C'est ce qu'on appelle les paramètres du haut du problème, les multiplicateurs de Lagrange. Et donc, au lieu d'essayer de faire une optimisation sur les W et B, on va faire directement l'optimisation sur les variables duales. Alors, quelles sont les contraintes ? La première contrainte sur les variables duales, donc pour être au point sel, évidemment, les alpha-i sont positifs. La somme des alpha-i, y-i doit être égale à 0. Et puis, on doit... donc, on a... On va l'écrire. Donc, le premier. Minimisation de cette quantité-là. Et on va minimiser le Lagrangien. Alors, le W, je peux l'écrire sous cette forme ici. Donc, 1 demi de la norme de W au carré, eh bien, ça va être la somme, je vais l'écrire comme la somme sur tous les i et i prime, des produits, la norme au carré, ça va être le produit scalaire entre cette quantité et lui-même, et ça va me donner la somme des alpha i, alpha i prime, y i prime, et le produit scalaire entre le xi et xi prime. D'accord ? Ça, c'est mon terme norme de W carré. Ensuite, ici, j'ai un terme qui va être la somme des alpha i. OK. J'ai un autre terme, c'est la somme des alpha i fois le yi qui va être multiplié par b, mais la somme des alpha i yi est égale à 0. Donc ce terme, je peux l'oublier. Et il ne me reste plus que le terme somme des alpha i fois yi, xi produit scalaire avec w, mais w, je peux le remplacer par son expression ici, et ça va me donner ici donc une moins somme sur i. Et alors, le w, comme ça va être la somme des alpha i prime, y i prime, xi prime, je vais retrouver un terme sous la forme somme des alpha i, donc je vais écrire y i si vous voulez, et puis ensuite alpha i prime, y i prime, produit scalaire entre xi et xi'. Alors, si je soustrais celui-là moins celui-là, eh bien, je vais avoir la même chose avec un signe moins 1,5. Donc, je peux mettre ici un moins 1,5, faire disparaître ce terme-là, et je tombe sur cette expression du Lagrangien. D'accord ? Donc, maintenant, ce que j'ai un problème de minimisation quadratique avec une simple contrainte égalité. Et ça, ça se résout avec ce qu'on appelle des techniques de programmation quadratique, ou on peut faire ça aussi avec un gradient conjugué, qui est beaucoup plus simple, et en particulier les algorithmes de gradient stochastique. Et la fois prochaine, pour le dernier cours, je vais introduire ces algorithmes de gradient stochastique, et il y aura un séminaire de Francis Bach qui vous montrera un peu qu'il y a des choses assez fines à faire en optimisation derrière ces problèmes de gradient stochastique. Alors, le dernier cours, ce que je vais faire, c'est faire juste une introduction rapide sur les réseaux de neurones, parce que notamment ces algorithmes de gradient stochastique, ce sont les algorithmes qu'on utilise pour optimiser les réseaux de neurones. On les retrouve un peu partout en apprentissage quand vous avez énormément de données pour faire de l'optimisation, parce que c'est des algorithmes qui s'implémentent en parallèle, en batch, de façon très efficace. Donc, je vais laisser une seconde de côté l'optimisation, comme on le fait, mais là, on a un problème qui se résout assez bien. Il y a une observation qu'on retrouve et qu'on avait dans le problème de régression linéaire, c'est que cette optimisation, elle ne dépend que d'une chose, c'est du produit scalaire entre les xi et les xi'. C'est comme ça que les données apparaissent dans le problème d'optimisation. D'accord ? Et ça va être très important quand on va essayer de linéariser, d'introduire ces techniques de noyau. Alors, avant d'aller là, il y a une modification du problème importante qu'il faut maintenant introduire, c'est le cas du soft SVM. Le cas du soft SVM, la grosse différence, c'est que cette contrainte ici, c'est-à-dire la contrainte sur les yi produit scalaire xi plus b, on n'impose pas simplement qu'elle soit plus grande que 1, mais on permet la présence d'un xi. Donc on introduit une nouvelle variable primale et on impose que le xi soit positif. Alors on peut réécrire, et puis on a vu que la minimisation s'écrit comme 1 sur 2 norme de W carré plus C fois la somme des xi. Alors, le problème se résout exactement de la même manière. Il y a une chose que je vais vous laisser montrer pour qu'on puisse atteindre la partie noyau aujourd'hui, c'est que le Lagrangien a exactement la même expression. La seule chose qui change, c'est que les alpha i, au lieu d'imposer simplement qu'ils soient entre positifs, ceci impose que les alpha i sont bornés, sont entre 0 et c. Donc introduire la constante c, ça revient à contrôler l'amplitude maximum des alpha i, et si vous imposez cette contrainte en plus, donc vous avez une contrainte supplémentaire sur votre optimisation, eh bien, vous résolvez le problème du soft SVM. Donc, d'un point de vue optimisation, vous avez exactement la même optimisation quadratique, sauf que vous avez une bande supérieure sur vos variables duales pour exprimer la contrainte du fait que, dans la fonction de coût, va rentrer le coût du fait que chaque point qui est de l'autre côté de la marge doit être ramené, le coût est proportionnel à la quantité nécessaire pour le ramener. Alors, ça nous résout donc notre problème d'optimisation. Donc, à nouveau, deux points. On a optimisé le problème avec ce critère de marge et ce coût sur les points mal classés. Le problème est équivalent à une régularisation de la classification où on convexifie le coût et on obtient une régularisation avec la norme de W, donc la norme de W qui correspond à cette optimisation sur la marge, et tout ça ne dépend que du produit scalaire entre les points xi et x'. Alors, maintenant, il va falloir évidemment aller au-delà, parce que la plupart des problèmes ne sont pas suffisamment simples pour être séparables linéairement. Et donc, la question, c'est d'étendre ces techniques pour que la frontière ne soit plus une simple frontière linéaire. Donc, imaginez que vous ayez vos points comme ceci. Ce que vous aimeriez, en fait, c'est faire passer une frontière qui a cette tête-là, et pas du tout une frontière linéaire. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? Ben, l'idée qu'on va retrouver, c'est que ce qu'on va faire, à nouveau, c'est essayer de trouver un changement de variable phi de x tel que, par miracle, si maintenant j'appelle z cette quantité, et bien dans l'espace des z, les points xi vont être envoyés sur des points phi de xi et la séparation, elle va pouvoir se faire avec un simple hyperplan. Si les points xi sont envoyés sur des points phi de xi, donc l'hyperplan, il est là-dedans. Donc l'hyperplan, on va l'optimiser avec un W. D'accord ? On va appliquer toute cette technique. Et la seule chose qu'on va changer, eh ben, c'est le fait que le xi, ici, il s'appelle maintenant phi de xi. Donc le problème, il va être identique, sauf que pour optimiser l'hyperplan dans cet nouvel espace, sauf que ceci, ça va être le produit scalaire entre phi de xi et phi de xi prime. Donc, tout comme dans le cas de la régression linéaire, qu'est-ce qu'on est en train d'introduire ? On est en train d'introduire un espèce de nouveau produit scalaire, mesure de similarité, qui est donnée par les produits scalaires entre les phi de x et phi de x prime, où phi de x, il faut que vous le voyez comme un grand vecteur, à nouveau, qui, dont les coordonnées sont des fonctions non linéaires, a priori, de x, et puis qui va avoir non pas d, mais des primes coordonnées. D'accord. Alors, l'optimisation est exactement la même. D'accord ? Parce que ça, c'est les constantes, vous allez calculer ça, vous allez faire cette minimisation. La solution de l'optimisation, on a vu, c'est quoi ? C'est la somme des alpha i, y i, xi, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hyperplan séparateur, autrement dit, c'est le produit scalaire, c'est le signe du produit scalaire entre x et b, d'accord ? Ça, c'est notre f tilde, c'est notre estimateur. Et ça, c'est donc le signe, produit scalaire entre x et b, c'est la somme sur i des alpha i, y i, produit scalaire entre xi et x, plus b. Et donc, ce que vous voyez, c'est que le classificateur lui-même, qui a x associé 1 ou 0, eh bien, il va dépendre que des produits scalaires entre x et x. Donc si jamais maintenant vous êtes dans cet espace ici, vous êtes posé la question, là j'ai un point x, où est-ce qu'il est classifié ? Eh bien ce point x, il va être envoyé quelque part dans un phi de x, et pour savoir où est-ce qu'il est classifié, eh bien ce qu'il va falloir, c'est évaluer cette quantité avec ceci qui a été remplacé par phi de xi, produit scalaire avec phi de x. Donc, si je l'exprime avec mon noyau, avec le f tilde de 2x, tout simplement, c'est le signe somme sur i, la combinaison linéaire, alpha y i, et là, vous avez la valeur du noyau en x, xi, plus b. Alors, ce que vous voyez, c'est que, d'une certaine manière, du point de vue optimisation, c'est quasi transparent. C'est-à-dire que vous avez des valeurs qui sont ici différentes, vous résolvez exactement, c'est des constantes, de la même manière, et puis hop, ça vous donne directement le classificateur qui va essentiellement, ça c'est une mesure de similarité, comment ça se traduit cette équation ? Ça veut dire qu'on va voir si x est dans la classe 1 ou moins 1, en fonction de la similarité entre x et les différents exemples xi dont vous connaissez la classe yi. Et donc, imaginez des chiens, des chats. Si vous avez trouvé une mesure de similarité sur les images qui est bien foutue, eh bien, si votre image ressemble plutôt à des chiens, eh bien, cette quantité, le produit scalaire, il va être grand pour les chiens. Il va être petit pour les chats, et donc la combinaison linéaire, elle va avoir tendance à avoir le même signe du yi que pour les chiens. D'accord ? Donc, intuitivement, c'est assez simple. Ce qui est assez joli, qu'on va voir, c'est qu'en fait, on arrive à avoir des frontières ici qui peuvent être extraordinairement complexes. Et ce que je vais faire, c'est vous le montrer d'abord avec des polynômes, et puis ensuite, on va le faire avec un cas un peu plus général qu'un noyau gaussien. Et donc là, finalement, dans toute cette recherche qui a été faite entre les années 90 et 2000, ça a été vraiment de réaliser qu'avec des changements de variables comme ça, on arrivait à obtenir des frontières non seulement très complexes, mais on arrivait à exactement quantifier la complexité de cette frontière. Et la complexité de cette frontière, c'est quoi essentiellement ? C'est le nombre de variables qu'il faut dans... C'est-à-dire, ça consiste à d'abord linéariser la frontière et ensuite compter le nombre de variables qu'il faut pour caractériser cette frontière une fois qu'elle est linéarisée. Alors, pour rendre tout ça un peu plus concret, ce que je vais faire, c'est... je vais vous prendre l'exemple des noyaux polynomiaux. Et c'est en prenant un exemple comme ça qu'on se rend compte que la technique est effectivement très puissante. Et en même temps, on va voir qu'il faut s'en méfier un petit peu. Et que l'enthousiasme que ça a généré dans les années 90-2000 a fini par un petit peu retomber. On va voir pourquoi. Alors, un point ici qui est important, c'est que toutes ces sommes vont de 1 à n, d'accord ? Donc le nombre d'opérations ne dépend que de n. Il ne dépend pas du tout de la dimension ici d'. Donc si jamais vous vous placez dans un espace de très grande dimension, d' peut être absolument énorme, le nombre d'opérations ne va pas dépendre de d'. Parce que si vous avez une manière rapide d'évaluer ce noyau, eh bien, le nombre d'opérations va simplement dépendre de n. Donc, d'une certaine manière, vous êtes immunisé contre le fait que potentiellement votre phi de x vit en très grande dimension. Alors, je vais prendre l'exemple d'un noyau, des noyaux polynomiaux. C'est le premier exemple qui a été, un des premiers exemples qui a été étudié. Donc, d'une certaine manière, il y a eu à ce moment-là, une espèce de sport qui a consisté à essayer d'explorer tous les noyaux possibles et de voir si ces noyaux étaient efficaces pour faire de la classification ou pas. D'accord ? Et un premier... Alors, noyau qui est assez simple, il faut bien voir que l'idée, c'est que ça doit être un produit scalaire entre, normalement, entre un phi de x et un phi de x'. On va voir tout à l'heure le théorème de Mercer qui donne une condition nécessaire et suffisante pour que ce soit vrai. Et un des premiers... qui a été proposé, c'est de mettre une puissance, c'est-à-dire tout bêtement garder x produit scalaire avec x prime, d'accord, mais mettre ça à la puissance p, d'accord. Donc c'est le produit scalaire d'origine, simplement vous mettez ça à une puissance. Donc le nombre d'opérations pour calculer ça, c'est d opérations, parce que là c'est de dimension d. Et ce que vous allez voir, c'est que ça, tout d'un coup, mettre cette puissance, ça vous permet d'avoir des frontières extraordinairement flexibles. Alors comment... donc le problème maintenant, c'est de trouver le phi de x. La question, c'est quel est le phi de x qui vous donnerait un produit scalaire exactement égal à ça. OK ? Donc x, c'est ma variable en dimension d, donc ça a des variables comme ça, x1, xd. Je vais rajouter une variable x0. X0, ça vaut 1. Parce que ça, ça va du coup, je vais pouvoir écrire ça sous la forme des sommes sur J, des xi fois xj, pardon, xj prime. Où J va maintenant de 0, comme ça, ça me donne le 1, à la dimension du vecteur d. Et puis le tout est à la puissance p. D'accord ? Et je vais faire apparaître le phi de x ici. Alors, vous avez en fait un produit de sommes. Donc, vous avez toute une série de sommes comme ceci identiques que vous allez multiplier. De j égale 0 à d, de xj, xj prime. D'accord ? Bon, ces variables, je peux les appeler j1, Ça, c'est de la première somme. Et jusqu'à la dernière somme, JP, JP, JP. Ben, vous avez un produit de somme, je peux l'écrire comme une somme de produits. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire comme une somme. Les produits, ça va être n'importe quel élément que je peux prendre dans la première somme, dans la deuxième, dans la troisième. Donc les produits, les termes du produit, combien d'éléments j'ai dans mon produit ? Eh bien, je vais en avoir, j'ai P éléments, donc je vais en avoir P. Et puis les termes du produit, ça va être des X, J, I, ça veut dire que j'ai pris l'élément indice I. Et alors si je prends là-dessus, je vais avoir le X', J, I. Et puis j'ai différents index que j'ai pris dans ces différents produits. Et donc la somme, elle porte sur tous les index possibles. Donc je vais définir le vecteur J, c'est l'ensemble des J1, J2, JP. Et donc, il peut appartenir à n'importe quelle valeur de 0 à D à la puissance P. D'accord ? Donc, je peux le réécrire comme ça. Donc, j'écris la somme des produits, quoi, le produit des sommes, comme une somme de produits. Maintenant, je peux séparer ces deux termes. Ça, c'est la somme des XJI. Et ça, je peux tout simplement écrire, bah, ça, c'est le produit de I égale 1 à P de X, J, I prime. Ah, mais maintenant, j'ai une somme de produits entre un terme et la même chose, sauf appliquée sur X prime. Donc ça, c'est un produit scalaire. Ça, vous pouvez le voir comme la somme sur tous les vecteurs J qui sont dans 0D puissance N d'une certaine fonction phi indice j de x fois phi indice j de x prime. Ah, mais ça, c'est exactement le produit scalaire entre phi de x et phi de x prime. Si je définis phi de x comme étant le vecteur dont toutes les coordonnées sont les phi j de x pour tous les j qui appartiennent à 0 d à la puissance p. D'accord ? Alors, il est de quelle taille ce vecteur ? Ben là, j'ai d plus un terme à la puissance p, donc ce vecteur, il est de taille, la dimension, si vous voulez, de phi de x, il est de taille d plus 1 à la puissance P. Et c'est quoi ces termes, à nouveau ? Ces termes, c'est les produits, d'accord ? C'est des monomes, c'est des produits des variables de X sachant que pour J égale 0, j'ai 1. Donc en fait, je vais avoir tous les monomes obtenus comme étant des produits x. À nouveau, c'est la variable x1, xd. Je suis en train de former tous les monomes de degré p des variables de x. D'accord ? Donc maintenant, si j'écris mon ici f tilde de 2x dans ce cas-là, le f tilde de 2x, ici j'ai la somme sur i, donc j'ai mes constantes. Et ça, ça va être quoi ? Ben, c'est le produit scalaire, où je vais peut-être. Oui. Donc le produit scalaire, je vais avoir une somme sur tous les j ici. Je vais avoir les xi à la puissance. Alors ça, c'est. Excusez-moi, le problème, c'est là. Bon, je vais surtout me concentrer sur la partie du x. Le x, ça va être tous les monomes. Alors, ce qui n'est pas très malin, c'est qu'ici, je ne devrais pas l'appeler i. Là, je vais, excusez-moi, je vais l'appeler k une seconde ici. Ah, je ne peux pas l'appeler k. IJKL, je vais l'appeler L. Et puis je vais la mettre en index au-dessus. Et je vais vous donner surtout la moralité de l'histoire. x, j, i, et puis c'est l'index L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette surface ici, si vous regardez ce que c'est une somme de tous les monomes possibles de degré p avec des constantes qui sont ajustables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un polynôme arbitraire de degré p. Donc, c'est-à-dire que vous avez ici construit une courbe qui est un polynôme arbitraire de degré p. Un polynôme arbitraire de degré p en dimension grand D, il y a beaucoup de termes, hein. Il y en a d plus 1 à la puissance p. Alors, n'oubliez pas que d, potentiellement, c'est un million. D'accord? Un million à puissance p, quand vous êtes en dimension 5, c'est des milliards de termes. Mais ce qui est superbe, c'est que cette espèce de polynôme horriblement compliqué, vous n'avez pas essayé de l'ajuster en essayant de le mettre là. Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes placé là et ça devient une simple classification linéaire. Alors ça, ce n'est pas tellement surprenant. Vous dites votre polynôme, c'est une combinaison linéaire de monomes, donc si je l'exprime en monomes, ça devrait pouvoir s'écrire de façon linéaire. Oui, mais ce qui est très joli, c'est que, regardez, là, vous avez d plus 1 puissance p terme, donc on pourrait se dire la complexité numérique du problème, eh bien, c'est celle-là, c'est le nombre de variables. Or, en fait, la complexité numérique du problème, non. Quand vous placez dans les variables duales, c'est n, c'est le nombre d'exemples, qui est potentiellement beaucoup plus petit que le nombre de variables. D'accord? Donc là, vous avez un espèce de miracle, c'est que vous avez introduit énormément de variables, mais en fait, la complexité numérique, ce n'est pas le nombre de variables, c'est simplement le nombre d'exemples. Et on voit bien, ça c'est un premier exemple, c'est des polynômes, qu'on va pouvoir introduire beaucoup de flexibilité et obtenir des formes ici qui peuvent être encore beaucoup plus complexes. Alors, juste une seconde avant de continuer. À votre avis, pourquoi on va le payer, ce truc-là? Pas de miracle, là on est en train de faire un truc, en fait on n'a pas le... Certes, ça va super bien marcher d'un point de vue calcul, mais le résultat ne va pas forcément être fabuleux. Pourquoi? Vous avez une idée? Pardon? Non, 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 parce que vous avez régularisé votre problème de façon convexe, ça c'est la marge, et vous en avez une unique. Donc le problème, il est complètement, il est unique, il est calculable, c'est superbe. Pardon? Ouais, Le problème, c'est est-ce qu'elle va être bonne, la solution? Il n'y a pas de miracle, hein. Si vous introduisez beaucoup trop de variables, vous allez avoir un problème d'overfit. Alors, en apparence, vous ne les voyez pas, vos variables, parce qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas là, mais si, elles sont là. En fait, vous ajustez librement vos coefficients sur votre polynôme, et vous vous retrouvez avec plus de paramètres que d'exemples. Et si vous avez plus de paramètres que d'exemples, vous allez avoir un énorme problème d'overfit. Alors, on va une seconde ignorer ça, parce que ça a été... Les gens le savaient, mais bon, on peut quand même espérer, mais en fait, non. Mais je vais continuer. L'idée... J'aurais peut-être pas dû vous donner le truc avant de continuer. Mais l'idée qui est derrière, c'est de se dire, OK, en fait, c'est quoi l'esprit de tout ça? C'est, on va se placer dans un espace, finalement, de phi de x qui est de plus grande dimension, et puis, ensuite, le problème va devenir linéaire. Alors, il y a une petite question qui peut se poser, c'est est-ce que cet hyperplan, est-ce que je peux toujours trouver un phi de x tel qu'il existe une séparation qui soit linéaire? Est-ce que c'est possible? Alors là, la réponse, elle est oui. Et elle se démontre, en fait, assez facilement. Si jamais... Alors, je vais vous montrer cette proposition au théorème. C'est si les xi... Donc j'en ai n, des xi. Ils sont linéairement indépendants. Alors... Et donc, ils sont linéairement indépendants. Ça, ça va être possible que si la dimension D est plus grand que N. J'ai N points en dimension D, ils peuvent être linéairement indépendants que si D est plus grand que N. Alors, je ne peux pas appeler ça une proposition, ça n'a rien de très... Alors, quelles que soient les valeurs YI, il existe un W tel que W, produit scalaire avec XI, soit égal à Y. Autrement dit, je définis un système linéaire, d'accord ? L'autre membre, il est libre. Les XI, ils sont linéairement indépendants. Ça, vous pouvez écrire ça sous forme d'une matrice fois un vecteur, le vecteur X qui est égal à YI. Le fait que vos vecteurs soient linéairement indépendants, c'est exactement l'expression du fait que la matrice soit inversible. Donc si la matrice est inversible, alors il existe une solution W qui va vous résoudre. Donc ça, je vous le laisse vérifier par vous-même, mais c'est clair. Mais ça veut dire quoi pour le problème de classification ? Ça veut dire que si jamais vous êtes en dimension D qui est plus grande que le nombre d'exemples, alors vous trouvez toujours un hyperplan, et là en plus c'est un hyperplan particulier parce que ça va être l'hyperplan WX égale 0. Eh bien, cet hyperplan, il va être séparateur, parce que tous les points qui sont à gauche, eh bien, vous allez bien avoir égal à 1, et tous les points qui sont à droite, vous allez l'avoir. Donc, vous allez parfaitement séparer vos exemples de training. Alors, on peut, là-dessus, faire encore un petit peu mieux si jamais je prends un hyperplan affine, ça se dit de la façon suivante. Si les XI... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point XI et je vais soustraire le premier. XI moins X1. I plus petit que N, donc la différence, donc les vecteurs qui rejoignent mes points, XI moins X1, sont linéairement indépendants. Et alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas besoin de D plus grand que N, là j'ai N plus 1 point en dimension D, donc besoin... Donc, ça veut dire que N est... donc j'ai toujours D plus grand que N. Excusez-moi, là j'ai N point, donc c'est D plus grand que N moins 1. Donc autrement dit, je peux classifier N plus 1 point, D plus 1 point, voilà. Donc, alors à ce moment-là, il existe WB tel que je peux avoir W de XI plus B est égal à Y. Alors, comment est-ce que ceci se vérifie ? Donc, c'est-à-dire que là, au lieu, en dimension D, au lieu de classifier exactement D points, vous pouvez même en classifier D plus 1. Alors, comment est-ce qu'on vérifie ça ? Eh bien, on commence par trouver un W tel que W produit scalaire entre tous les XI et X1 soit égal à YI moins Y1. Ça, ça va marcher parce que on sait que là, maintenant, j'en ai que D. Et puis, on va imposer sur Y1 que W produit scalaire à X1 plus B est égal à Y1. Si vous prenez ces deux équations et vous substituez ceci là-dedans, vous allez obtenir toutes ces équations-là. Donc, ça veut dire que si vous êtes en dimension D, si vous prenez D plus 1 point, donc N qui est égal à D plus 1 point, si ces points ne sont pas linéairement dépendants et avec une probabilité 1, ce sera le cas parce qu'il y a peu de chances pour que tous ces points se retrouvent concentrés dans un sous-ensemble. Eh bien, à ce moment-là, il existe toujours, ce que vous démontrez, c'est qu'il existe toujours un hyperplan qui va les séparer. Donc, je vais retraduire ça. Ça veut dire que si vous mettez en dimension suffisamment grande, eh bien, il existe toujours un hyperplan qui est séparateur linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ben, c'est pas compliqué. J'ai n points. Je vais créer un phi de x qui a suffisamment de descripteurs, suffisamment de features, de manière à me trouver en dimension suffisamment grande. À ce moment-là, à moins que j'ai un manque de chance, je vais toujours pouvoir trouver un hyperplan linéaire séparateur. Je reviens dans mon espace d'origine et hop, j'ai trouvé une frontière qui sépare mes exemples. Donc tout ça, c'est parfaitement juste. Sauf que, à nouveau, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit ici que la dimension de l'espace dans lequel il va falloir que je me place, la dimension du phi de x, pour être garantie, elle va être plus grande que n. Donc le d', qui est la dimension dans laquelle je veux me retrouver, doit être plus grande que n. Mais si d' est plus grande que n, à ce moment-là, le terme de fluctuation statistique, il va être très grand, parce que souvenez-vous, les termes de fluctuation statistique, c'est-à-dire du fait que quand vous minimisez, le problème c'est la généralisation. Ce que vous voulez assurer, c'est que quand vous minimisez le risque empirique, en fait vous êtes quasiment en train de minimiser le risque moyen, parce que vous allez appliquer ça sur des nouvelles données de test qui ne sont évidemment pas les données de training. Et vous voulez que sur les nouvelles données, les choses se placent aussi bien que sur les données de training. Ben, pour que ce soit vrai, ce qu'on a vu, c'est que la fluctuation du risque, epsilon carré, typiquement, elle varie dans le cas d'une estimation linéaire comme le nombre de variables des primes. Si vous vous souvenez, ça correspondait au log de la taille de votre classe d'estimateur après avoir quantifié cette classe. Et on a vu ça, c'est à peu près le nombre de paramètres de la classe, et le nombre de paramètres, eh ben, c'est le nombre de W, et le nombre de W, c'est la dimension de l'espace, divisé par le nombre d'exemples. Et donc, si vous prenez un espace qui est plus grand que le nombre d'exemples, eh ben, ça, c'est de l'ordre de 1, ce qui veut dire que, en fait, vous avez une énorme erreur de fluctuation. OK ? Alors, je vais finir en prenant un autre noyau. Je n'ai pas passé cette fois-ci sur le théorème de Mercer, mais je voudrais finir sur un autre noyau qui est le noyau gaussien, qui est aussi très très joli, mais parce que, alors, attention, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du tout que toutes ces techniques sont inutiles. Ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais vous voulez avoir une frontière complexe comme ça, il va vous falloir de toute manière que le d' soit petit devant n. Donc si le d' est petit devant le nombre d'exemples, il faut que vous fassiez attention, soit vous êtes au départ dans un problème de basse dimension, le di n'est pas trop grand, ou alors si le d au départ il est grand, il va falloir commencer par essayer de réduire le d et ensuite d'appliquer une technique non linéaire qui va éventuellement réaugmenter, faire un d à une certaine puissance. D'accord ? Mais à la fin, faites gaffe, le nombre de paramètres libres doit toujours être plus petit que la dimension de l'espace. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est, là j'ai pris des polynômes, imaginez que j'ai une forme beaucoup plus complexe dans mon espace ici, un peu arbitraire. Alors, même que les points soient tout autour comme ça. Donc la frontière que j'aimerais placer, elle serait peut-être quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, et que je peux créer une frontière comme ça. D'accord ? Avec un polynôme, ça n'a pas fonctionné. Vous voulez une frontière qui même se recourbe, et puis vous voulez éventuellement que là, maintenant, j'ai des ronds. Donc la frontière, elle se retrouve ici, maintenant, comme ça. Et puis maintenant, j'ai éventuellement ici des ronds. D'accord ? Est-ce que je peux créer une frontière comme ça qui a des bouts dans tous les sens ? La beauté de ce cadre-là, c'est que ça vous dit non seulement oui, mais je peux exactement vous calculer le noyau. Il y a un noyau très simple pour faire ça, et c'est le noyau gaussien. Et je vais finir là-dessus. Donc, on ne verra pas le théorème de Mercer aujourd'hui. Alors, le théorème de Mercer, je vais quand même vous le dire oralement, il vous dit grosso modo produit scalaire entre phi de x prime, ça, si vous le faites, vous remplacez x par x prime, ben c'est toujours positif. Ça, c'est k de x, x prime. Et ça, c'est une forme linéaire positive. Donc, autrement dit, si vous voyez k de x, x prime comme une matrice, c'est une grande matrice qui est symétrique, parce que les points, vous pouvez les inverser. Donc, une grande matrice, vous pouvez les voir comme un opérateur. Et vous pouvez vérifier que si ça s'écrit comme ça, ben cet opérateur, automatiquement, ça va être un opérateur donc symétrique, défini positif. Et si vous avez un opérateur qui est... Si maintenant vous imposez que vous avez un K de XX' qui définit un noyau d'un opérateur symétrique défini positif, alors forcément il existe un phi de X tel qu'il s'écrit comme ceci. Donc ça, c'est grosso modo le théorème de Mercer, et vous dit ça, c'est le noyau d'un opérateur défini positif. Symétrique, défini positif. Alors, des noyaux comme ça, on peut en trouver plein, plein, plein. Chaque fois qu'on choisit un phi de x, on a un nouveau noyau. Donc la question, donc il y a deux approches. Soit je choisis le phi, soit je choisis le noyau. Donc l'approche qui a été prise dans cette période, c'est plutôt de se concentrer sur le noyau en se disant, mais non, c'est le noyau qui compte, parce que c'est le noyau qui vous donne une mesure de similarité. Alors, il y a un noyau très naturel qui satisfait ça, c'est le noyau gaussien. Le noyau gaussien, c'est K de XX'. Il est très simple, c'est E puissance moins X moins X', donc la norme euclidienne standard, divisé par 2 fois sigma carré. Alors ça, on peut vérifier que ça peut s'écrire comme un phi de X fois phi de X'. Là, je vous le ferai sans doute un jour. Ça s'écrit... En fait, ça, c'est un exercice intéressant à faire. Ce n'est pas très loin de la technique qu'on a utilisée pour le faire pour le polynôme. Simplement, ce qu'on peut démontrer, c'est que le phi de x, il est de dimension infinie. Et je peux même vous, grosso modo, vous donner ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Le phi de x, les coordonnées phi j de x, c'est des choses qui vont avoir... Une des manières, parce qu'un phi de x comme ça n'est pas unique, mais une solution possible, et ça vous pouvez essayer de le faire, prenez e puissance moins x carré sur 2, et puis la même chose, les produits des, alors je vais l'appeler phi k, des j appartenant à 0 d puissance k, des x j i. C'est-à-dire que c'est grosso modo une exponentielle multipliée par des monomes de termes quelconques. Alors, et si vous les construisez bien, vous arriverez à obtenir ça. Ce qui est la seule raison pour laquelle je vous l'écris, c'est que, regardez, ce produit scalaire, il se calcule super facilement. Ben, vous calculez cette norme, des opérations, et boum, vous avez le produit scalaire. Si vous l'aviez calculé sous cette forme-là, eh bien ça, c'est un vecteur de dimension infinie, donc le nombre d'opérations pour le calculer, il aurait été infini. Alors, pourquoi je prends ça? Parce que ce produit scalaire, d'abord, très très utilisé, ça s'appelle aussi des radial basis functions, RBF. C'est comme ça aussi que les gens l'appellent en apprentissage. Ben regardez, si x et x' ont une distance petite devant sigma. Donc, si produit scalaire de x, la norme de x moins x prime est petite devant sigma, alors je peux faire un développement limité. Ben, k de x x prime, l'exponentielle d'un petit nombre, c'est 1 moins une exponentielle négative, ce nombre. Donc ça, ça va grosso modo être 1. Moins norme de x moins x prime carré sur 2 sigma carré. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est que, en fait, ce qui apparaît derrière, c'est tout simplement, évidemment, la norme euclidienne. Quand les points sont très proches, c'est comme si vous étiez en train de regarder une norme euclidienne. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend un noyau gaussien? Bien, je vais rajouter des points pour que ce soit un peu plus crédible. On définit, grosso modo, des boules de rayon sigma. Tous les points à l'intérieur de cette boule vont être concernés. Entre ces points, c'est pas petit devant 1, il faut que ce rapport divisé par sigma soit petit devant 1. Donc c'est que x moins x prime soit petit devant sigma. Dans cette boule, le noyau il se comporte comme un noyau linéaire. Donc si on optimise le SVM, grosso modo, ça va consister à trouver une frontière linéaire à l'intérieur de cette boule. Et maintenant, si je me déplace, alors, par contre, si la distance entre x et x' est grande, alors, je vais finir à temps parce qu'il y a un très bel exposé de Gilles Weinrib après sur des applications médicales de l'apprentissage où ils font vraiment des très belles choses. Donc, l'autre cas, c'est si x moins x prime divisé par sigma est grand devant 1. Alors, à ce moment-là, c'est grand devant 1, la valeur du noyau, il vaut 0. À peu près. Donc, quand vous avez deux points qui sont trop éloignés, ils n'interagissent pas. Donc ça veut dire qu'on peut considérer les problèmes simplement dans des boules comme ça, et puis sur chaque boule, vous résolvez un problème de frontière linéaire. Je calcule la frontière linéaire. D'accord ? Et donc, si jamais votre sigma est suffisamment petit, vous pouvez obtenir des frontières qui sont super irrégulières. Vous pouvez construire toutes les frontières que vous voulez essentiellement à partir du moment, pourvu par exemple que votre frontière soit Lipschitz, que votre boule sigma soit suffisamment petite. Donc ça veut dire que vous prenez un problème qui a une frontière d'une complexité absolument quelconque, pourvu quoi, Lipschitz, mais une forme qui peut être très complexe, boum! Vous appliquez un noyau gaussien, le problème devient linéaire, vous résolvez votre problème quadratique et vous récupérez votre frontière. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que toute la complexité de la frontière, vous l'ignorez. Vous appliquez votre noyau gaussien qui ne dépend même pas du problème, à la limite, et vous le résolvez. Alors, évidemment, les miracles, ils ont un coût. Et c'est quoi le coût ? Le coût, c'est qu'on voit bien qu'est-ce qui va se passer. Il va falloir que le sigma soit suffisamment petit pour que, dans le domaine où j'ai mis mon sigma, ma frontière soit linéaire. Mais si le sigma il est petit, j'ai une toute petite boule en grande dimension. Et là, je suis foutu parce qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que je vais avoir des boules. Le dessin que je vous ai montré là, qu'on trouve dans tous les bouquins, c'est un piège absolu. C'est un piège absolu parce qu'on est en deux dimensions, on met des boules, on a des frontières, c'est super joli. C'est vrai, en deux dimensions, ça marche. Mais si vous êtes en dimension 100, 1000 ou 1 million, ça ne marche pas du tout parce que dans ces boules-là, il n'y a personne. Et donc, ça, c'est le problème, je reviens sur les problèmes de malédiction de la dimensionnalité. Et donc, pour qu'il y ait quelqu'un suffisamment de points, parce que quand même, pour coller un hyperplan, il va falloir que vous ayez suffisamment de points d'apprentissage dans votre boule. Oui, mais pour qu'il y ait quelqu'un dans la boule, il faut que la boule soit quasiment de l'ordre de la taille de l'espace. Alors, ça ne veut pas dire que la boule doit être exactement de la taille de l'espace, mais de l'ordre de la taille de l'espace. C'est-à-dire que si vous êtes, en pratique, dans des données oméga qui est 0,1 en dimension d, d'accord ? Donc, là, l'échelle de référence, c'est 1. Vous pouvez faire l'expérience. Qu'est-ce qui va se passer quand vous appliquez ça en pratique ? Et ce sont des estimateurs qui marchent bien. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir ajuster le sigma. Donc vous allez faire ce qu'on appelle une cross-validation, vous allez essayer de faire une classification pour différents sigma, et vous allez vous rendre compte que la classification se généralise bien pour un sigma qui est assez grand. Vous allez mesurer votre sigma, et vous allez vous rendre compte que votre sigma, il est de l'ordre de 1 moins epsilon, ou un petit nombre. Pourquoi ? Parce qu'une boule, pour être capable de couvrir le oméga, c'est-à-dire votre ensemble, en grande dimension D, avec un nombre n de boules qui n'est pas monstrueux, eh bien, il faut que, en l'occurrence, le epsilon, il va être de l'ordre de 1 sur n. Il faut que vous soyez quasiment avec des boules de la taille de l'espace, mais pas exactement. Et donc, ça permet quand même de remplacer des estimateurs linéaires par des estimateurs avec des frontières légèrement courbées. Donc, ce n'est pas inutile, et le fait est, c'est que les classificateurs SVM gaussiens peuvent faire mieux, assez nettement mieux, que des classificateurs linéaires. Mais il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que le sigma, il ne va pas être tout petit. Donc, c'est quand même, et je vais insister là-dessus, une technique qui est vraiment utile, mais il va falloir ajuster le sigma avec une cross-validation, tout comme si jamais vous le faites avec un noyau polynomial, il va falloir que vous ajustiez votre P avec une cross-validation. Et si votre sigma commence à être quasiment est égal à 1, c'est-à-dire si le sigma, en fait, ça revient à dire que le sigma commence à devenir vraiment grand, en fait, votre classificateur gaussien, ça devient quasiment un classificateur linéaire. Parce que ce qui se passe, c'est que votre boule, elle a quasiment la taille de l'espace. Donc vous vous retrouvez avec une espèce de boule qui a cette taille-là. Et donc sur cette boule, vous classez un hyperplan. Eh bien, c'est comme si vous aviez mis un classificateur linéaire. Donc, je vais m'arrêter là. La moralité de l'histoire, c'est que oui, ce sont des très belles techniques. Ce sont des très belles techniques parce que ça permet de voir comment on prend un problème totalement non linéaire, on le transforme en un problème qui devient linéaire. Dans cet espace linéaire, on sait comment faire l'optimisation convexe, on a des algorithmes et on voit très bien ce qui se passe, qui est le lien avec cette marge, et on peut faire le lien avec ce qu'on appelle la dimension de Wapnick en termes de complexité pour calculer exactement l'erreur de fluctuation. C'est des algorithmes qui fonctionnent au sens où, effectivement, quand on optimise le noyau, on fait mieux que l'estimateur linéaire, mais en même temps, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle au sens où le nerf de la guerre, ça va être de trouver le noyau. Et on n'a pas le droit de se retrouver en très grande dimension. Et donc, on va retomber sur ce problème que je vais juste commencer la fois prochaine. Ça va être comment trouver vraiment le bon phi de x sans se placer en très grande dimension, parce que si on se place en très grande dimension, on a un problème d'overfitting. Et c'est là que les réseaux de neurones vont arriver. Voilà, donc je vais faire, on va faire une pause avant la présentation de Jean Weinrib, et puis pour les élèves du MVA, il y a la signature habituelle. Peut-être un commentaire, excusez-moi. Alors ça, c'est juste un commentaire pour les élèves qui suivent le Master MVA. Donc les oraux seront le 5 avril, vous devriez recevoir un mail dans la semaine. Si vous n'en recevez pas un, inquiétez-vous, ça veut dire qu'on n'a pas votre mail. Voilà, donc à 11h15, donc dans 10 minutes, un quart d'heure, Gilles Weinrib commencera sa conférence.